La réouverture de la RP1 au Mont d'Or, toujours dans des conditions particulières, mais c'est un grand pas de franchi après 150 jours de blocage de l'axe routier. La foire du Pacifique, c'est au-delà de nos espérances. Les mots des organisateurs déjà ravis de cette édition après plusieurs mois d'interruption des grandes manifestations populaires en Calédonie. Le Salon international du livre océanien s'est ouvert avec un invité. Paul Wameau était ce matin au premier rendez-vous à Rivière-Salée. Le festival Gomanga a aussi ravi plus de 2000 visiteurs, fans de culture japonaise, à la médiathèque de Dimbéa. Dans le Pacifique, à Melbourne, un jeune homme de 19 ans arrêté par la police fédérale. Il préparait des actes de terrorisme et voulait faire de nombreuses victimes sur le sol australien. Le sport du cyclisme sur piste à l'honneur ce samedi au Vélodrome de Magenta avant le départ de plusieurs jeunes Calédoniens au championnat de France de l'avenir. Et sur la scène nationale du rugby, la 5e journée de top 14 et le stade toulousain de Peato Mauvaka qui sera à Castres ce dimanche. Bonsoir et soyez les bienvenus dans Info Weekend pour tous savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. À la une de l'actualité, la réouverture de la RP1 au Mont d'Or et la circulation qui peut de nouveau se faire sous haute sécurité entre les deux parties de la commune. Le Mont d'Or était, vous le savez, coupé en deux depuis le début du mois de mai par voie terrestre avec le blocage et les exactions à la hauteur de Saint-Louis. Nous retrouvons ce soir Nicolas Legrand sur place en direct du Mont d'Or.
Oui, c'est une réouverture, vous l'avez dit Mickaël, sous haute surveillance mais aussi partielle, avec deux créneaux qui sont proposés aux automobilistes pour traverser la tribu de Saint-Louis de 6h à 9h le matin et de 15h à 18h l'après-midi. C'est en fait le fruit d'un long travail pour amener l'ordre et permettre notamment la reddition des individus recherchés pour les faits les plus graves. Ça a été chose faite la semaine dernière et aujourd'hui, l'État estime que les conditions sont donc réunies pour rouvrir l'axe. Toutefois, réouverture progressive, hein, on l'a dit. L'État reste vigilant afin de garantir un ordre durable. Louis Lefranc, le haut-commissaire, s'est exprimé d'ailleurs à Saint-Michel ce soir en présence du général Mathéos, commandant la gendarmerie en Nouvelle-Calédonie, et du procureur général Bruno Dalle, le haut-commissaire qui se satisfait de ce début de retour à la liberté de circuler. Écoutez.
Grâce à un travail collectif, à la fois des autorités ici présentes, la personne du Comgen, de l'autorité judiciaire, le directeur de mon cabinet, les autorités coutumières, tout le monde s'y est mis pour faire en sorte que cette route puisse être réouverte. Donc moi je suis très heureux pour la population du Mont d'Or, pour celle de la tribu aussi, qui puisse se déplacer comme ils auraient dû toujours pouvoir le faire, et de le faire dans de bonnes conditions de sécurité. Les créneaux seront élargis progressivement, dès lors qu'on se rend compte que des conditions de sécurité pour les automobilistes, bien évidemment, soient au rendez-vous. Donc aujourd'hui, c'était 6h-9h, cet après-midi 15h-18h, c'est élargir ces créneaux et les faire coïncider avec le couvre-feu qui reste toujours en vigueur. Donc sur la tribu de Saint-Louis, où c'est quand même le dernier point dur, si je puis dire, là, aujourd'hui, cette réouverture, eh bien, c'était vraiment l'objectif recherché, il faut s'en réjouir. Et s'en réjouir pour la population qui a beaucoup souffert pendant ces 5 mois. Donc moi je suis très heureux pour la population qu'on ait enfin pu le faire aujourd'hui.
Le commissaire qui indique qu'il n'y a eu aucun fait de délinquance le long de la route aujourd'hui. Sur votre route, vous trouverez une RP1 qui est assez sale. Il y a quelques individus qui remettent d'ailleurs de petits obstacles par endroit. Il faut donc parfois ralentir dans ces chicanes de ferraille et de pierre. C'est pourquoi Louis Lefranc, le haut-commissaire, a tenu à ce que l'ouverture ne soit pas continue dans la journée, mais qu'il y ait bien une pause entre 9h et 15h pour le moment. Écoutez.
6h pendant lesquelles on vérifie l'état de la route, les balayeuses et les engins passent pour retirer tous les obstacles éventuels qui pourraient être à l'origine d'un accident de circulation. Parce qu'on ne veut pas être responsable en réouvrant cette route d'accidents qui pourraient être des accidents graves. Donc c'est la bonne mesure pour une première fois. C'est respecté par la population de la tribu. J'ai vu beaucoup de signes amicaux de la part de gens de la tribu en direction des forces de l'ordre. Ça change un petit peu. Je pense qu'il y a un vrai soulagement parmi les gens de la tribu de voir enfin ces verrous levés. Mais maintenant, ça y est, on y est, il faut que ça dure. Donc tous les engagements qui ont été pris, il faut qu'ils le soient de manière constante et que cette fermeté, qui est aussi le résultat de ce qu'on a pu obtenir aujourd'hui, eh bien, cette fermeté soit toujours au rendez-vous. En tous les cas, c'est la mienne, c'est la nôtre. Il faut que ce soit aussi celle des autorités coutumières.
Le dispositif de gendarmerie est très important. Il y a bien sûr des centaures et des VBRG qui sont postés aux entrées de la tribu, des brigades d'intervention et des drones pour surveiller les allées et venues. Le général Mateos va d'ailleurs maintenir ses troupes aussi longtemps que nécessaire aux abords de Saint-Louis. Des gendarmes en capacité d'intervenir en une minute chrono, notamment pour éviter les carjackings.
Nous avons gardé un dispositif qui est conséquent, qui sera permanent tant que la situation l'exigera. C'est-à-dire pour l'instant, il n'y a aucune diminution des effectifs qui sont engagés. Nous avons donc des réserves d'intervention de chaque côté de la route, et puis sur la route et au-dessus de la route aussi, pour surveiller la sécurité des usagers. Il y a des gendarmes, je peux vous garantir qu'il y a des gendarmes qu'on ne voit pas forcément, mais les gendarmes sont là, la gendarmerie est bien présente et sera présente autant que nécessaire jusqu'à ce que cet axe soit complètement sécurisé, jusqu'à ce que la population qui emprunte l'axe soit complètement rassurée.
Le verrou sera donc remis en place d'ici une dizaine de minutes maintenant, à 18h précise. Réouverture demain matin à 6h. Au Mont d'Or, Nicolas Legrand, RRB.
Et j'ajoute que par voie de communiqué, l'association citoyen mondorien s'est dite satisfaite de cette annonce. L'association citoyen mondorien qui réaffirme que, par ailleurs, seule une deuxième voie d'accès, en l'occurrence un viaduc, permettrait d'assurer une libre circulation durable et sécurisée sur cette route essentielle. Fin de citation. Génération Mondor aussi a salué par voie de communiqué l'action du haut commissaire et des forces de l'ordre. Notez enfin que la province sud va maintenir le service de navette maritime dans les prochains jours.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu. Au Mont d'Or, c'est le 100.4.
Également à la une de l'actualité, le retour d'un rendez-vous populaire après de nombreuses annulations et reports depuis le début de la crise insurrectionnelle. La Foire du Pacifique, c'est le premier grand événement qui se tient depuis vendredi en Baie-de-la-Moselle. Cette édition 2024 continuera encore demain, dimanche. Selon les organisateurs, à la vue de la fréquentation enregistrée depuis le lancement, c'est le signe que ce type de rendez-vous était très attendu. Écoutez Bruno Aurelio de Pacific Fair, organisateur de cette foire. Il était invité sur notre plateau en direct de la foire ce midi sur le stand d'RRB.
C'est au-delà, vraiment, au-delà de nos espérances. Hier, on a fait 5000 personnes, 5000 visiteurs. On ne pensait jamais faire ce chiffre. C'est même plus que l'année passée. On s'attendait à une affluence un peu moindre par rapport aux conditions et en fait, pas du tout. C'est tout le contraire. C'est incroyable. Il y a du monde et des sourires. Hein, on l'avait dit cette année, c'est j'aime la Nouvelle-Calédonie. On voulait que les gens se retrouvent avec le sourire et je crois que le pari est réussi. Tout le monde a le sourire, à la banane, côté visiteurs, exposants, les animations. Il y a tout qui coche les cases, c'est magnifique.
Et pour la seule journée d'hier, près de 5000 personnes avaient fait le déplacement, une belle fréquentation et un mot d'ordre après ces longs mois de troubles, les sourires à la Foire du Pacifique, ambiance.
Ça se passe très bien, on voit plein de gens, il y a plein de gens qu'on connaît en plus et puis et les gens ils ont le sourire, c'est bien.
Non, ça fait du bien de voir autant de monde, c'est bon, ça fait du bien de sortir. C'est super, comme ça fait longtemps que ça fait du bien, oui.
C'est bien aussi pour les étudiants aussi qui cherchent des stages, parce que j'ai vu qu'il y avait des entreprises là-bas. Et c'est des entreprises qui correspondent à mon BTS que je fais. On voit plein de produits qu'on n'a pas forcément ici à Nouméa.
C'est pas mal, c'est sympa, c'est en plein air. Moi j'ai l'habitude de faire la foire de Paris à Paris, c'est couvert forcément. Là c'est la foire de Nouméa, c'est à voir. Très belle journée.
Ça donne un peu ça fait du bien aux mamans, aux vendeurs, ceux qui veulent vendre les produits, quoi. Donc je pense que c'est peut-être mieux de faire deux fois ou trois fois dans l'année.
Oui, il y a beaucoup de choses, mais j'ai toujours pas tout vu encore.
C'est la première fois qu'on vient tourner la foire, mais voilà, c'est sympa, il y a du monde.
Ça va, il y a plein de choses à regarder, à voir, il y a du tout, quoi, en fait.
Je trouve que c'est magnifique. Je suis tangienne, ça nous permet de sortir un peu les Tavala, Kékié, les Ilis chez nous.
Je suis contente pour participer parce que je peux rencontrer beaucoup de personnes avec grand sourire. Je suis très contente.
Il y a du monde qui vient, des exposants qui sont contents. Je reste très positive pour que les personnes viennent. Je suis originaire de Tétier. Nous avons un pôle Tétier aujourd'hui ici à la foire. Venez nombreux avec le sourire. Marourou!
Et notez que ce samedi, c'est Sabrina et sa petite fille Aiko qui ont été tirées au sort au jeu de la roue sur le stand RRB avec, comme cadeau, une magnifique voiturette pour enfants Tacoma offerte par Toyota. Les jeux continueront encore demain sur le site de la foire et sur RRB avec une deuxième voiture pour enfants Tacoma à gagner dès 11h au jeu de la roue, sans oublier une foule d'autres cadeaux et goodies. Comme chaque année, la radio est partenaire de l'événement. Vous pouvez également, sur place, rencontrer nos journalistes, nos animateurs, tout en laissant votre bulletin dans l'urne pour le grand jeu de la Foire du Pacifique 2024 avec RRB. Autre rendez-vous ce samedi, le Salon international du livre océanien qui s'adapte cette année. Les organisateurs ont décidé de décentraliser l'événement sur plusieurs sites. La caravane du Silo a débuté son voyage au parc de Rivière-Salée. Au programme de cette 15e édition, des lectures de textes et la bibliothèque mobile. Parmi les intervenants, Paul Wameau.
J'ai été invité par la Maison du Livre de la Nouvelle-Calédonie qui est ici dans le cadre du Silo. C'est une lecture de performance de textes que je présente un peu partout là. On va présenter ça, des textes qui parlent de ce qu'on traverse aujourd'hui au pays, des textes qui parlent d'autres choses aussi.
L'objectif c'est ?
C'est de toucher et puis c'est de partager. D'habitude quand je fais ce genre de lecture, j'invite aussi les gens à venir ensuite dire un texte, dire un mot s'ils veulent. Donc ça se veut être une interaction, pas que moi qui parle, mais que les gens aussi viennent s'exprimer. Et donc ça se veut un monde de rencontre, d'échange, pour dire qu'avec les mots, avec l'écriture, l'expression, qu'il faut dire les choses. Il faut faire sortir les choses qu'on a dans le ventre et dans la tête pour s'alléger un peu, puis pour se faire entendre aussi.
La caravane du Salon international du livre océanien qui sera encore à Caméré, à La Foa, à Lifou, Ouvéa, puis au parc forestier. Culture toujours, Dimbéa célébrait la culture japonaise aujourd'hui. La 12e édition du festival Go Manga était organisée au sein de la médiathèque municipale. Près de 2000 personnes ont fait le déplacement, Léana Colombo.
Oui, à peine les portes de la médiathèque passées, nous voilà dans un univers presque parallèle où ninjas et démons se côtoient. La peur du ridicule n'a pas sa place ici, c'est même tout le contraire. Ce sont les plus exubérants qui remportent le plus de succès. Championnats de jeux vidéo, de cartes à jouer ou encore concours de danse, les animations sont nombreuses et le succès certain. Le clou du spectacle de cette journée aura sans conteste été le concours de cosplay. Evan, 12 ans, et Jade, 14 ans, sont arrivés premiers, respectivement dans la catégorie enfants et adolescents. On les écoute.
Attention, mesdames et messieurs, on attend ça depuis tout à l'heure. On a vu un magnifique défilé et nous allons commencer par la catégorie des plus petits. Il a obtenu 82 points. Il est loin, loin, loin devant. Il s'appelle Evan. On peut l'applaudir, s'il vous plaît.
Cosplay, j'adore ça et j'aime bien quand on me voit.
Alors pourquoi ce choix ?
Parce que j'adore Tanjiro et qu'il est très très fort au sabre et j'adore.
Pourquoi vous accompagnez votre fils aujourd'hui ?
Fier de ce qu'il fait, il est passionné par ça, donc c'est vraiment joli de voir ça, ouais, ça fait plaisir.
Dans la catégorie adolescent, il s'agit de Jade. Jade, ça te fait plaisir de ouf ?
Oui.
Jade, elle va pleurer !
Ah, je suis émue de tout là, toutes mes émotions sont... Je suis émue d'avoir gagné, je suis émue d'avoir participé.
Tu es déguisée en quoi ?
Muichiro Tokito dans Demon Slayer. Moi je pensais plutôt que j'allais perdre parce que la dernière fois j'ai perdu quand j'étais ici.
Maintenant on souhaite de gagner l'année prochaine ?
Oui.
Du côté des organisateurs, on se dit amplement satisfait du taux de fréquentation pour cet événement qui marque le retour des animations culturelles de grande ampleur sur Dumbéa. Célia Martin est chef de service culture et patrimoine à la ville de Dumbéa.
Le public a vraiment répondu présent, donc on a eu à peu près 2000 personnes sur la journée. On est habitué à des fréquentations qui sont un petit peu plus importantes, mais vu la situation actuelle, on est vraiment très content. On a un public de plus en plus grand, de plus en plus diversifié, qui vient découvrir la culture japonaise, la culture manga. C'est vraiment quelque chose qui remporte de plus en plus d'engouement. Donc du coup, on est content parce que ça fait la 12e édition et au début, c'était plutôt timide sur les premières éditions. Et aujourd'hui, on a des petits, des grands, du public familial, des seniors. Enfin voilà, tout le monde vient et ça fait du bien de voir tout le monde ensemble et qui vient découvrir un événement à Dumbéa.
Le rendez-vous est d'ores et déjà pris pour l'année prochaine avec un festival qui pourra accueillir encore plus d'animations.
Dans le reste de l'actualité, le nord de la Grande Terre lutte toujours contre des feux de brousse. Hier, un important incendie sévissait au niveau du plateau de Tilla, à Pointe-Bout. Les précisions du maire de la commune, Yann Peraldi.
Le feu a pu être maîtrisé dans la nuit du côté de Tilla, aux alentours de la ferme photovoltaïque. Les pompiers étaient encore en surveillance des foyers résiduels ce matin. Alors le feu a pris en début d'après-midi. au niveau du village et plusieurs départs de feu le long de la RT1 ensuite qui ont suscité des interventions successives. Donc les foyers se sont rejoints au niveau de Tia en fait. Et donc les fumées épaisses soulevées par les vents qui n'ont pratiquement pas cessé. Mais ils ont fait un feu tactique pour pouvoir maîtriser le dernier front de flammes.
Et depuis le début de la semaine, 14 départs de feu ont été signalés sur les communes de Conné et Pointe-Boute, où plus de 700 hectares de végétation sont déjà partis en fumée. Et puis nous avons appris ce matin le décès de Wilfried May, président du syndicat des industries de la mine et de MKM, à la suite d'une longue maladie. Figure emblématique du secteur minier, Wilfried May était président du syndicat des industries de la mine depuis 2013. Dans un communiqué, l'ensemble du syndicat tient à rendre hommage à sa mémoire et à saluer la contribution de Wilfried May au progrès du secteur minier. Le témoignage du vice-président du syndicat des industries de la mine, Alcide Ponga.
Wilfried était le président du syndicat des industries de la mine, dont moi-même j'étais le vice-président. Donc on a travaillé beaucoup ensemble avec l'ensemble des collègues de toutes les entreprises minières et métallurgistes de la communauté de mine. Donc c'est une grande tristesse pour nous, même si on savait qu'il était très malade. Et au-delà de ses fonctions, bon, Wilfried, c'est quelqu'un qui est connu dans la mine. Hein. Il a pris la succession de son père dans la gestion de Maïkwawa Mine. Et ça fait maintenant des années qu'il défend les intérêts de la profession minière et métallurgique en général. Hein. Donc, au-delà de la fonction du syndicat, hein, par son entreprise aussi MKM, donc ils se sont développés à Kwawa, ils sont venus s'implanter sur le Mont d'Or et donc ils ont développé des activités. Donc voilà, c'est une grande figure de la mine qui nous quitte aujourd'hui.
Des propos recueillis par Kélinda Boicou. La date des obsèques de Wilfried May sera communiquée ultérieurement. 18h, passé de 1 minute, une page de publicité avant de voir l'actualité nationale et dans le monde et les manœuvres militaires menées par Israël au Proche-Orient. Des combats sont en cours, à tout de suite.
Savez-vous qu'il faut adapter la taille de votre réfrigérateur à vos besoins et à votre famille ? La consommation d'électricité augmente avec le volume de l'appareil. Et si vous partez en vacances, n'hésitez pas à le débrancher en le laissant la porte entrouverte.
Retrouvez toutes les astuces éco-conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
RRB toujours à vos côtés. Depuis le début des émeutes qui secouent la Nouvelle-Calédonie, les équipes de Radio Rythme Bleu se sont mobilisées pour vous informer, vous accompagner et pour faire vivre votre antenne.
Malgré l'insécurité, les tensions et les difficultés de déplacement, nous nous sommes engagés pour répondre à votre confiance et à votre fidélité.
Demain, comme aujourd'hui, comme hier, RRB sera toujours à vos côtés.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
Et la suite du journal avec vous, Michael Juneski.
Situation toujours très tendue entre Israël et le Hezbollah libanais. Des combats sont en cours à la frontière libanaise selon la milice chiite. Une série d'explosions s'est produite dans la banlieue de Beyrouth. Frédéric Simon est le correspondant d'Europe 1 en Israël.
L'opération israélienne contre le Hezbollah au Liban se poursuit de deux manières distinctes. Les bombardements d'une part qui visent à détruire le plus grand nombre possible de stocks de missiles, qui visent également à éliminer les dirigeants de la milice chiite. Selon une publication saoudienne, Israël aurait obtenu la confirmation de la mort de Hachem Safi Adin, qui était considéré comme le probable successeur de Hassan Nasrallah et qui était la cible d'une frappe aérienne de forte puissance à Beyrouth dans la nuit de jeudi à vendredi. Parallèlement au sol, cette fois, les troupes de Tsahal continuent d'agir contre les miliciens du Hezbollah dans la zone la plus proche de la frontière avec Israël. 250 d'entre eux auraient été tués dans les combats. L'armée israélienne a perdu, elle, 9 de ses soldats depuis le début de l'incursion terrestre mardi dernier. Une opération au sol qui devrait s'élargir. Deux brigades supplémentaires ayant rejoint la frontière israélo-libanaise.
Frédéric Simon, correspondant d'Europe 1 en Israël. Toujours à propos du conflit au Proche-Orient, le président américain Joe Biden a estimé qu'Israël devait, je cite, envisager d'autres options que de frapper des sites pétroliers en Iran, après avoir admis la veille que cette éventualité était en discussion. À l'inverse, le candidat à la Maison-Blanche et ancien chef d'État américain Donald Trump a déclaré qu'Israël devrait frapper les installations nucléaires de l'Iran. Dans le Pacifique à Melbourne, la police fédérale a procédé à l'arrestation d'un jeune homme qui projetait de nombreuses attaques dans la capitale du Victoria. Les détails avec notre correspondant Jean-Pierre Zajac.
Après avoir reçu des informations confidentielles du FBI, la police du Victoria a effectué une perquisition au domicile d'un jeune homme de 19 ans dont l'identité n'a toutefois pas été révélée. On sait seulement qu'il projetait d'organiser une fusillade de masse dans son ancien lycée, le déraillement d'un train, la destruction aux explosifs d'une université et l'empoisonnement du système d'alimentation en eau potable de la ville de Melbourne. Des notes écrites détaillant ses intentions ont été retrouvées à son domicile, de même qu'un arsenal d'armes à feu, plus de 500 munitions, un pistolet taser à impulsion électrique, des produits chimiques, des explosifs, des gilets pare-balles, un masque à gaz et des talkie-walkie. Ceci sans parler d'une baïonnette, d'un couteau à cran d'arrêt et de plusieurs armes artisanales. Arrêté et inculpé une première fois en avril, il avait été remis en liberté sous caution, ce qui ne l'avait pas empêché de poursuivre la mise à exécution de ses projets, lesquels viennent encore une fois d'être déjoués grâce à l'intervention du FBI. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
En métropole, les forces de l'ordre sont mobilisées à l'approche de l'anniversaire des massacres du 7 octobre en Israël. Un conflit au Proche-Orient qui a eu de nombreuses répercussions sur le sol français et notamment la multiplication des actes antisémites. Une fracture aussi dans la classe politique. Par ailleurs, Jean-Luc Mélenchon, le chef de file de la France insoumise, a appelé les étudiants en métropole, je cite, à mettre des drapeaux palestiniens partout où c'est possible. Et ce, après la publication d'une circulaire sur le maintien de l'ordre dans les universités. L'actualité nationale est aussi marquée par la disparition de Michel Blanc. Les hommages sont nombreux pour celui qui a joué dans plus de 80 films et dont les répliques sont restées cultes. Écoutez notamment l'hommage de Jean-Marie Poiret, le réalisateur et scénariste qui a souvent travaillé avec Michel Blanc.
Michel aurait certainement encore fait des films magnifiques. C'est un acteur génial, très très intelligent, très fin. Un homme d'une finesse folle. Ce sont des gens qui, par leur intelligence et leur sensibilité, pigent au quart de tour.
Michel Blanc, le comédien, qui est donc décédé dans un hôpital des suites d'un choc allergique. Il était âgé de 72 ans. 18h07, une dernière page de pub avant de voir tout le sport et la sélection calédonienne de football qui jouait son dernier match de préparation pour les éliminatoires à la Coupe du Monde.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas à pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance!
Du lundi au vendredi sur Radio Rythme Bleu, Cheyenne raconte une histoire aux tout-petits vers 19h20.
Raconte-moi une histoire avec Petit Dôme, la boutique des tout-petits. Petit Dôme, c'est aussi et toujours les listes de naissance, de Noël, de baptême et d'anniversaire accessibles sur Internet. Chez Petit Dôme, on n'hésite plus, on y va.
RRB, première radio d'information.
La suite du journal et tout le sport, Mickaël Juneski.
À la une du sport, du football et la victoire de la sélection A de Nouvelle-Calédonie face à Gaïcha, c'était en début d'après-midi au stade Noumadélé, Léana Colombo.
Et une victoire 2-0 pour les hommes de Johan Sidaner. Les joueurs se préparent à affronter jeudi prochain la Papouasie-Nouvelle-Guinée dans le cadre des qualifications à la Coupe du Monde. Le sélectionneur Johan Sidaner se dit satisfait de cette dernière rencontre et continue à en tirer des enseignements.
Ça s'est plutôt passé de manière positive puisqu'on a gagné ce dernier match face à un bon adversaire qui était Gaïcha. On a gagné 2-0. Ça vient en fin de compte parachever une longue préparation et un sixième match avec une dernière victoire. Ce sont forcément des matchs qui nous apportent plein d'enseignements. Beaucoup de positifs parce que la priorité c'était de gagner sur le plan athlétique et on a bien travaillé. On n'a aucun blessé à déplorer. Et puis comme dans chaque rencontre, il y a des enseignements des objectifs non atteints. On n'en a mis que deux, mais le point positif, c'est qu'on n'a pas encaissé de but. Mais pour ce dernier match, ça s'est vraiment bien passé.
Le rendez-vous est donné dans 5 jours aux îles Fidji pour affronter la Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Du cyclisme sur piste avec les jeunes qui étaient réunis au vélodrome de Magenta ce samedi. Une trentaine d'engagés pour le championnat du comité provincial sud qui venait remplacer les championnats territoriaux annulés cette année. Pour les meilleurs, c'était aussi une préparation en vue des championnats de France à venir. David Chavit, c'est le président du comité de cyclisme de la province sud.
C'est vraiment super parce que ça faisait un petit moment qu'il n'y avait pas eu de grosses compétitions et donc là, ça permet aux jeunes qui se sont entraînés quand même, qui ont continué à s'entraîner même après les événements, de pouvoir avoir un but. Donc là, oui, de les voir. En plus, on a un beau temps, donc c'est vraiment super. Ouais.
Pour certains, il y a évidemment cet objectif, un déplacement pour des échéances nationales.
Donc il y aura les championnats de France sur piste de l'avenir fin octobre, début novembre. On a 4 jeunes qui partent la semaine prochaine. Donc ils vont rejoindre 2 coureurs qui sont en métropole et qui sont déjà sélectionnés. Pour eux, l'objectif, c'est vraiment les championnats de France. Et donc là, ça leur fait une petite répétition avec voilà, une compétition. Ils ont leur petit rituel, donc ça leur permet un peu de se mettre en jambes.
Une répétition générale donc pour nos meilleurs jeunes qui vont continuer de s'entraîner avant le grand départ. Je vous propose d'écouter quelques-uns d'entre eux.
Je m'appelle Enzo Martorello, j'ai 15 ans et je fais partie de l'ECE. Ça fait du bien, ça nous permet de nous mettre en condition pour les championnats de France. Et ça fait du bien, oui. C'est bien s'entraîner, pas prendre de risques inutiles et voilà, être bien préparé mentalement.
Là-bas, on n'y va pas pour faire de la figuration. Tu penses que tu peux tenter un podium, voire plus?
Je l'espère, mais... c'est pas gagné.
Je m'appelle Louis Chavit, je suis U17, deuxième année. Donc je suis à l'école calédonienne du vélo. La forme est à peu près là. On n'est pas encore au top, mais on a encore un mois pour bien se préparer. Et surtout s'acclimater à la Bretagne. Va falloir bien récupérer, s'habituer au vélodrome parce que c'est un 200 mètres. Ici, on est sur un 333. Va falloir se préparer, s'habituer, savoir comment se lancer sur un 200 mètres. Et prendre un peu des infos sur les concurrents si on peut.
Je m'appelle Kéril Moutry, j'ai 17 ans et je cours à l'école calédonienne du vélo. J'ai fait mes minima et je suis plutôt heureux d'avoir été sélectionné. J'ai fini mon dernier gros bloc d'entraînement. Puis maintenant, ça va être les derniers réglages pour la compétition. Je m'envole la semaine prochaine. Et puis c'est de l'affinage. C'était pas évident. Sur route, en tout cas, on n'a aucune course jusqu'à la fin d'année qui n'est prévue. C'est bien que malgré tout, ils aient réussi, les encadrants, à organiser quelques courses sur piste, dont ce championnat de la province sud. Je vais pas me mettre de stress, mais j'avais toujours rêvé un podium.
Seront engagés dans ces championnats de France de l'avenir 2024 sur piste. Louise Chavitz, Kéril Moutry et Enzo Martorello, vous venez de les entendre, mais aussi Raphaël Delatière du VCC Mondor, ainsi qu'Hervé Salin et Paul Roy qui sont déjà en métropole. Parmi les rendez-vous du week-end, place demain au trail du Bois du Nord de Connet. 3 courses seront au programme, le Grand Raid de 15 km, le parcours familial de 4 km et enfin une course à obstacles de 2,5 km. Rendez-vous donné à partir de 7h30.
Radio Rythme Bleu, les bonnes fréquences. Allez fou, c'est le 102.5.
Le sport sur la scène nationale du rugby et la 5e journée de Top 14. Ce dimanche, le Stade Toulousain affrontera Castres. Les deux équipes figurent dans les 6 premiers du classement. Toulouse comptera sur le calédonien Peato Mauvaka. Le talonneur sera titulaire pour cette rencontre.
C'est le derby et voilà, pour l'instant c'est eux qui sont devant parce que ça fait 4 ans qu'on n'a pas gagné chez eux. Donc voilà, on s'attend à un gros combat. Ils ont beaucoup de commandos sur qui on repose beaucoup de confiance. Donc à nous de mettre les ingrédients nécessaires pour espérer gagner chez eux.
Castres-Toulouse à suivre à partir de 6h05 ce dimanche. En attendant, dès 23h30 ce soir, le Racing 92 sera à Vannes. Puis à 1h30 du matin en simultané, le Stade français fera face à Montpellier. La Rochelle croisera le fer avec Lyon. L'Union Bordeaux-Bègles, le leader, affrontera Bayonne. Et Perpignan sera opposé à la section paloise. À suivre également du rugby au féminin, l'équipe de France dames qui jouera la 2e journée du Women 15 contre les États-Unis. Les deux sœurs Féléou d'origine wallisienne seront d'ailleurs titulaires sous le maillot bleu, Manae Féléou, capitaine, et Théani Féléou sur la feuille de match pour affronter les Américaines à partir de 6h30 pour nous. En football, suite de la 7e journée de Ligue 1 avec Saint-Étienne-Auxerre à partir de 2h du matin, puis Lille-Toulouse dès 4h et Rennes-Monaco à 6h ce dimanche. Aujourd'hui, l'OM a concédé le nul contre Angers, un but partout. Enfin, les sports mécaniques en MotoGP, les qualifications sont en cours pour le Grand Prix du Japon. La course aura lieu demain soir. Le départ sera donné à 16h, heure de Nouméa. 18h, passé de 14 minutes, l'heure de voir les couleurs du ciel.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover,
aménagée.
Une météo que vous nous détaillez, Maxime, bonsoir.
Bonsoir à tous, et bien pas de vigilance particulière. Tout d'abord pour cette nuit, des nuages circuleront sur la façade est ainsi qu'au Loyauté, même si les averses seront assez rares. Ailleurs, la nuit restera souvent bien étoilée. Le vent s'orientera davantage au secteur est. Sur le nord des Loyautés, il soufflera entre 15 et 20 nœuds. Sur la pointe nord et Belle-Epe, il dépassera les 20 nœuds avec rafale à 30 nœuds. Ailleurs, il oscillera entre 10 et 15 nœuds. Les températures minimales s'échelonneront ce soir de 15 à 18 degrés localement et de 19 à 22 degrés du nord-est à Belle-Epe et sur le nord des Loyautés. Demain matin, quelques nuages circuleront sur l'est et au Loyauté en donnant de rares ondées. Ailleurs, le soleil dominera. L'alizé de secteur est soufflera entre 10 et 15 nœuds et il atteindra encore 20 nœuds sur l'extrême nord et entre 15 à 20 nœuds sur le nord des Loyautés. Puis sur la côte ouest, en cours de matinée, les brises de secteur sud s'établiront entre 10 et 15 nœuds.